VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Nouakchott, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Violence en RCA, ouverture jeudi à Khartoum au Soudan du dialogue inter-centrafricain sous l'égide de l'Union africaine. Une quinzaine de groupes armés présents en République centrafricaine, plus le gouvernement du président Faustin-Archange Touadéra, sont appelés à la table de négociation. Idrissa Seloudia.
Le dialogue à venir, préparé depuis juillet 2017 par l'Union africaine et soutenu par les principaux partenaires de Bangui, se veut plus ambitieux que les précédents. À la table de négociation se réuniront les principaux chefs de groupes armés ainsi qu'une importante délégation du gouvernement. Pas moins de 7 accords de paix ont en effet été signés en 5 ans sans qu'aucun aboutisse au retour de la stabilité. Le Soudan allié de Moscou a déjà abrité une tentative de médiation parallèle fin août que les principaux partenaires de Bangui ont condamné. Le dialogue doit se faire sous l'égide de l'Union africaine et non de la Russie. La principale interrogation avant ce dialogue, c'est la question de l'amnistie des chefs de guerre réclamée par tous les groupes armés comme prérequis à un arrêt des hostilités, ce que Bangui a toujours refusé. La dernière médiation en date remonte à 2017 sous l'égide de l'Église catholique. Les groupes armés avaient repris les armes, moins de 24 heures après la signature d'un accord, et une centaine de personnes avaient été tuées à Bria, dans le centre du pays. Ces pourparlers de Khartoum pourraient se poursuivre sur 2 à 3 semaines. Il n'y a pas de date de fin spécifique, a indiqué à l'AFP le ministre soudanais des Affaires étrangères.
En République démocratique du Congo, c'est la confusion sur la date de la prestation de serment du président élu Félix Tshisekedi. Cette date fait encore aujourd'hui l'objet de discussions avec l'entourage du chef de l'État sortant, Joseph Kabila. La cérémonie d'investiture de Félix Tshisekedi marquera la première transmission pacifique du pouvoir présidentiel dans l'histoire de la RDC. Joseph Kabila aurait souhaité une prestation de serment dès mercredi, alors que le président élu demande plus de temps, a indiqué à l'AFP lundi soir un conseiller de M. Kabila. Les deux camps devraient avoir une réunion ce mardi. Et concernant le Soudan, le président soudanais Omar al-Béchir devrait se rendre au Qatar, ce qui serait son premier déplacement à l'étranger depuis le début du mouvement de contestation dans son pays. Information communiquée lundi par l'agence de presse Qatari. Le leader soudanais doit arriver à Doha, la capitale qatari, ce mardi et y rencontrer dès le lendemain l'émir du Qatar, Tamine Ben Hamad Al-Thani. Au Nigeria, 4 soldats ont été tués au cours du week-end dans une série d'attaques du groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du pays. Un drame qui arrive au moment où l'armée nigériane se félicitait d'avoir repoussé les djihadistes. Irénée Hermanombo.
L'armée affirme dans un communiqué avoir réussi à vaincre les terroristes de Boko Haram qui tentaient dimanche d'attaquer une base militaire à Bouniyadi dans l'état de Yobe. Deux sources militaires sous couvert d'anonymat ont toutefois déclaré à l'AFP que 4 soldats avaient également été tués à Bouniyadi au cours des combats intenses avec le recours à un soutien aérien contre les insurgés. Samedi, selon le communiqué officiel, des soldats ont infligé des pertes très importantes en hommes et en équipement au groupe tué anciens combattants dans la région de Baga, dans l'état de Borno, sur les rives du lac Tchad. La situation dans le nord-est du pays est alarmante, avec des dizaines, voire des centaines de soldats tués au cours des derniers mois par le groupe djihadiste, alors que le pays se prépare à voter pour élire un nouveau président le 16 février.
Et toujours concernant les prochaines élections au Nigeria, une bousculade lors d'un meeting électoral du président Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat, a fait plusieurs morts à Maiduguri, chef-lieu de la province de Borno dans le nord-est et épicentre de l'insurrection de Boko Haram. La présidence nigériane a fait état de cette bousculade lundi soir, mais sans mentionner le nombre de victimes. Aucun chiffre n'est encore disponible sur cet incident jusqu'à présent.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, les présidents du Sénégal et de la Gambie, Macky Sall et Adama Barrow, ont inauguré lundi le pont de la Sénégambie qui favorisera les échanges dans la sous-région et dont l'achèvement après des décennies d'atermoiements symbolise l'entente retrouvée entre les deux pays. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le pont, un élégant ouvrage de béton clair de plus d'un kilomètre situé en territoire gambien, enjambe le fleuve Gambie à une dizaine de kilomètres du poste frontière de Farafeni que les deux présidents, vêtus d'un boubou blanc, ont symboliquement emprunté lundi debout dans la même limousine à toit ouvrant. Étant donné la géographie de la Gambie et du Sénégal, avec un fleuve coupant chacun des deux pays en deux parties, on se demande pourquoi il a fallu tant de temps pour avoir ce pont, s'est interrogé M. Barrault lors d'une cérémonie au pied du nouvel ouvrage dont la construction avait débuté en 2015 sous Yahya Jammeh. Nous pouvons être fiers d'avoir transformé en réalité ce rêve de plusieurs générations, a abondé M. Sall, alors que le projet de pont évoqué depuis les années 1970 a connu des fluctuations au gré de l'évolution des rapports entre Dakar et Banjul. Le pont va faciliter l'interconnexion des réseaux routiers, réduire les temps de trajet et contribuer à l'intégration de la sous-région, a souligné le président sénégalais. Le pont va également permettre le désenclavement de la Casamance, région touristique et agricole, dont le développement a été freiné par son isolement géographique du reste du Sénégal et par une rébellion indépendantiste vieille de plus de 35 ans, aujourd'hui en sommeil.
Afrique du Nord maintenant, violence en Libye, plusieurs milices rives libyennes qui s'affrontent depuis mercredi dans la banlieue sud de Tripoli ont accepté un accord de cessez-le-feu, ont annoncé lundi soir des médiateurs. Les combats opposent des milices tripolitaines à un groupe armé venu de Tarouna, 60 km au sud-est de la capitale, et appelé la 7e Brigade. Les affrontements ont déjà fait au moins 16 morts et 65 blessés, selon un bilan du ministère de la Santé datant de samedi soir. L'accord de cessez-le-feu a été conclu grâce à une médiation de dignitaires de la ville de Bani Walid, à 170 km au sud-est de Tripoli. Afrique australe maintenant, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a promis ce mardi que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre après la répression meurtrière des manifestations contre la hausse des prix des carburants la semaine dernière. Le chef de l'État est rentré au pays et a annoncé aujourd'hui la télévision d'État après qu'il a écourté une tournée internationale en raison du mouvement de contestation au Zimbabwe. Actualité aux États-Unis, le shutdown, la fermeture partielle des administrations fédérales en est à son 32e jour. Le président américain Donald Trump a qualifié lundi de grand patriote les centaines de milliers de fonctionnaires affectés par cette fermeture. Les efforts en vue de mettre fin à cette situation sont toujours dans l'impasse. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Le chef de l'exécutif américain a réitéré lundi son appel à construire un mur le long de la frontière mexicaine. Nous devons travailler ensemble après des décennies d'abus pour résoudre la crise humanitaire, criminelle et narcotique à notre frontière. Nous gagnerons gros, a-t-il notamment tweeté. La fermeture partielle du gouvernement fédéral prive environ 800 000 fonctionnaires fédéraux de salaire. Le président Trump, qui réclame 5,7 milliards de dollars pour son mur, a proposé samedi ce qu'il a présenté comme un compromis. 3 années de protection pour des centaines de milliers de jeunes amenés illégalement aux États-Unis alors qu'ils étaient mineurs. Protection similaire pour des ressortissants latino-américains et africains ayant fui des violences ou des catastrophes naturelles dans leur pays. Le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, compte soumettre ce projet au vote avec très peu de chances de soutien des démocrates. Ces derniers exigent la réouverture du gouvernement avant toute négociation.
Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. La première ministre britannique Theresa May a annoncé qu'elle allait retourner discuter avec Bruxelles pour sauver son accord de Brexit rejeté par les députés du Parlement de Londres auxquels elle n'a pas offert le plan alternatif qu'ils exigeaient. Lundi, Madame May a annoncé aux députés qu'elle chercherait à reparler avec l'Union européenne du filet de sécurité, censé éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Mais la tonalité générale dans la presse britannique ce mardi porte surtout sur l'hypothèse d'un second référendum sur le Brexit, un projet qui a le vent en poupe. Et pour terminer, au Venezuela, 27 militaires ont été arrêtés lundi après s'être soulevés contre le régime du président Nicolas Maduro, à 2 jours d'une manifestation organisée à l'appel de l'opposition pour exiger un gouvernement de transition dans le pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.